8h55, on sait que cette semaine se tient à Saguenay le congrès de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFA, et que c'est l'endroit, le moment aussi pour rendre public plusieurs études. Et ce matin, on va parler de fraude alimentaire. On en a souvent parlé, que ce soit au niveau du miel, par exemple, ou de l'huile d'olive. Sébastien Rioux est titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique de l'alimentation et du bien-être et professeur à l'Université de Montréal. Monsieur Rioux, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
La fraude alimentaire, je regardais un peu les conclusions de votre travail, c'est, il y a une motivation derrière ça, c'est-à-dire maximiser le profit.
Tout à fait, tout à fait. C'est le gain économique et le principal moteur de la fraude alimentaire au niveau mondial, sans aucun doute.
OK. Prenons un cas, celui du miel, qui est un cas assez, semble-t-il, d'après ce que vous dites, documenté et assez répandu. Comment on procède? Quelles sont les techniques qu'on utilise? Puis comment je fais comme consommateur pour distinguer le vrai du faux?
C'est de très bonnes questions. Mais écoutez, le cas du miel est quand même assez... c'est un de mes cas préférés précisément parce qu'il est, il illustre très bien l'ampleur de la fraude. Pour le dire en un mot, il n'y a pas assez d'abeilles sur la planète Terre pour produire le miel qui est sur les tablettes. Et là, à ce moment-là, les autorités savent très bien qu'il faut trouver... il y a une fraude. La fraude, essentiellement, vient beaucoup de la Chine. On va ajouter, par exemple, des sucres liquides, etc., pour diluer le produit, pour augmenter le volume, évidemment, et augmenter les profits. Donc, ça fait diminuer les coûts de production, ça fait augmenter les profits. La guerre, présentement, elle se fait essentiellement dans les laboratoires, dans les laboratoires de détection chimique. Et c'est là que, comme je disais, le nerf de la guerre, il est. On est rendu dans des méthodes souvent très sophistiquées. On n'est pas au 19e siècle. Ce sont des laboratoires, des chimistes, des gens qui travaillent à contourner les réglementations aussi et qui peuvent changer, par exemple, l'origine d'un bon de commande pour que la provenance d'un stock apparaisse comme étant d'un autre pays que celui d'origine. Donc, il y a un ensemble de méthodes comme ça qui sont mises en place. Pour les consommateurs, je vous dirais que vous regardez un pot de miel, par exemple, il n'y a personne qui peut vraiment savoir si le miel qui est contenu dans le produit comme tel a été falsifié. D'une certaine façon, les circuits courts, c'est une garantie un peu plus élevée.
Qu'est-ce que vous voulez dire par circuit court?
Ah oui, les circuits courts, en fait, c'est simplement que la distance, si vous voulez, entre les consommateurs et les producteurs est moindre. Donc, quelqu'un qui dirait, moi, je m'alimente beaucoup à partir des producteurs québécois, canadiens, on va parler de circuits courts plutôt qu'une alimentation qui, comme la nôtre, de façon générale, est basée sur une diète qui est à toute fin pratique mondiale, avec des chaînes d'approvisionnement qui vont de l'ordre de milliers de kilomètres.
Autrement dit, M. Rioux, tout ce qui vient de loin a un potentiel peut-être d'être un peu plus suspect?
Oui. C'est lié, en fait, à la multiplication des acteurs qui interviennent dans cette chaîne alimentaire, ou si vous voulez, la multiplication des gens qui contribuent à cette chaîne-là. Donc, plus il y a de gens, plus comme vous disiez, les possibilités de fraude est élevée. Mais également, c'est la complexité des chaînes d'approvisionnement. Donc, par exemple, vous avez un contrat, vous pouvez le sous-contracter à quelqu'un d'autre. Donc, à un certain moment donné, les chaînes de sous-contrat comme ça, pour toujours augmenter le profit, passer le contrat au suivant, si vous voulez, avec des législations d'un pays à l'autre qui sont très différentes souvent, fait en sorte que on a des possibilités beaucoup plus élevées, d'autant plus l'anonymité est beaucoup plus grande. La traçabilité est très différente. Si vous achetez, votre sirop d'érable chez votre voisin ou sur quelqu'un de la région, ben souvent, ces personnes-là, la seule chose qu'ils ont, c'est leur nom. Donc, l'ensemble de leur revenu est basé sur la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché.
Mais
ils
par
sont
exemple,
connus.
il y a des auditeurs qui me disent depuis ce matin qu'on va mettre du glucose dans la tire d'érable. On va trafiquer le produit. Est-ce que dans le cas de l'érable, selon ce que vous savez, c'est un produit aussi vulnérable au trafic, à la fraude?
D'après ce que j'en sais, il y a eu des cas dans le passé, dans la mesure où il y a une association aussi qui, elle, fait qui fait la mise en marché, qui fait les tests dans ses propres laboratoires. Ça aide beaucoup, non seulement à centraliser la vente, et donc la qualité, je vous dirais, à rassurer le public sur la qualité du produit de façon générale. Donc, au Québec, je pense que les produits de l'érable, par exemple, la falsification arriverait beaucoup plus à un stade d'avantage beaucoup plus près du consommateur. Par exemple, vous allez dans une cabane à sucre, vous allez dans un point de consommation ou de distribution, où est-ce que là, le producteur ou le distributeur privé pourrait lui décider pour un gain économique, par exemple, de diluer son produit ou en augmentant le volume ou, comme vous dites, là, à rajouter certains produits pour masquer un goût, peut-être certains problèmes au niveau de la production, etc.
En terminant, je voudrais vous parler de l'huile d'olive. On sait que le prix varie énormément. Vous avez de l'huile d'olive, on dit pas trop cher, puis des huiles d'olive qui peuvent coûter des dizaines de dollars la bouteille. Et j'ai lu tellement de reportages sur la fraude dans l'huile d'olive, je me dis, ça n'a pas de bon sens. C'est comme un produit peut-être pas le plus facile avec lequel jouer, là. Mais en tout cas, il y en a pas un peu de la fraude. Là. Ça vient pas d'Italie, ça vient de la Grèce, ça vient pas de la Grèce. Ça aussi, là, c'est un joyeux pique-nique, là.
Tout à fait, vous avez raison. L'huile d'olive, c'est peut-être un des produits les plus falsifiés. Puis je vous dirais qu'il y a très peu de vos auditeurs qui comme vous et moi, avaient pas qui avaient en fait manger de l'huile d'olive qui était falsifiée. En fait, c'est à peu près général. C'est très difficile à détecter, mais on va la couper avec des huiles végétales, etc. Donc, et comme vous disiez, on va dire que ça provient de l'Italie. En fait, ça provient d'un peu partout. Donc, il y a aussi l'aspect de fausse déclaration. Mais il y a des économies que c'est très important. Puis peut-être par rapport à ça, juste pour faire un bémol quand même, la très, très grande majorité de la fraude alimentaire est non toxique pour la santé.
Non, ça, c'est vrai. C'est une question de plus d'arnaque financière.
C'est une arnaque financière, c'est une très bonne façon de le dire.
Et là, je ne vous parlerai pas du vin, on en aurait jusqu'à demain. Merci beaucoup, M. Rioux, d'avoir été
ça
là.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Sébastien Rioux est titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique de l'alimentation et du bien-être. Mon Dieu Seigneur, ça part tout seul, ça? Je l'ai juste ajouté, tout simplement, que c'est bien difficile à détecter. Puis là, il y a toute la manipulation sur les dates de péremption. On en a parlé souvent. Mais c'est sûr que c'est pas des produits toxiques. Mais tu sais, quand tu dis ça vaut combien, puis combien on me charge, c'est un petit peu enrageant. 9h04.